et les versets 12 à 17. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le père. Je vous ai écrit, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure sur vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et en fait, nous n'allons pas revenir sur tout le passage, car le verset auquel je souhaitais que nous réfléchissions, c'est le verset 16. Mais c'était bien, je pense, de relire le contexte dans lequel il était écrit, à qui il s'adresse, pour bien l'appréhender, bien que ce texte soit déjà très clair par lui-même. Et donc, le verset 16 nous dit « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Et Jean nous parle donc de ces trois choses, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Et avant de reprendre chacune de ces trois choses, j'aimerais que nous les gardions en tête et que nous les mettions en parallèle avec deux autres textes. Et le premier texte de la Genèse se trouve, le premier texte se trouve dans la Genèse, pardon, au chapitre 3 et les versets 1 à 6. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Bon à manger, convoitise de la chair. Remarquez que là, on est dans l'illusion la plus totale. Comment sait-elle, pour en avoir jamais mangé, pour en avoir jamais goûté, que ce fruit était bon à manger? Pire encore, alors que personne n'est là pour témoigner de la saveur de ce fruit. Deuxième point, agréable à la vue, convoitise des yeux. Troisième point, précieux pour ouvrir l'intelligence. Orgueil de la vie. Quelle forme d'intelligence? Bien sûr, nous y reviendrons. Mais là encore, la séduction a fonctionné à plein. Puisque agréable à la vue, on peut dire oui, ça c'est quelque chose de palpable, on peut le constater. Mais précieux pour ouvrir l'intelligence, c'est comme pour le goût, ce n'est que pure supputation. Et notre deuxième texte est en rapport avec une autre tentation, mais celle de Jésus cette fois. Et je vous invite à tourner vos Bibles vers l'Évangile de Luc au chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces 40 jours. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Première tentation, donc, le diable tente Jésus par la faim. Je remarque une chose, c'est qu'il élève son niveau de tentation à celui de la personne qu'il a en face de lui. Il lui dit, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et non pas comme il le ferait peut-être pour chacun d'entre nous, quitte ce désert et va t'acheter un bon jambon beurre dans le premier commerce que tu trouveras. Et je referai un parallèle que j'ai trouvé dans aucun commentaire. Alors c'est une vue personnelle, je vous la livre donc sous toute réserve. Ordonne que cette pierre devienne du pain me fait quand même penser à la manne que les Israélites trouvaient sur le sol chaque matin dans le désert. Mais là, bien sûr, ce ne serait que, comme souvent avec le diable, contrefaçon, parodie, détournement des choses de Dieu. La deuxième tentation, c'est « Contemple tous les royaumes de la terre et je te donnerai leur puissance et leur gloire. » Il s'agit de la tentation par la vue. Et là aussi, le diable élève son niveau de tentation pour Jésus. Luc nous dit qu'il élève Jésus. Matthieu parle d'une montagne très élevée sur laquelle il le transporte. Qu'est-ce que ça veut dire, il le transporte ? De mon point de vue, il n'existe aucun lieu sur la terre ou aucune montagne assez élevée d'où on puisse contempler toute la terre. Donc au-delà de la vue par les yeux du corps, je pense que le diable sollicite la représentation mentale par laquelle il tente d'amorcer la convoitise dans la personne de Jésus. Et peut-être ça peut échapper à notre regard bassement humain. Cette tentation nous paraît peut-être un peu fumeuse et facile à déjouer, mais il faut bien saisir ce que ça représente pour Jésus. Paul dit aux Corinthiens que toutes choses lui seront soumises. Mais pour l'heure, Jésus a mis de côté la gloire qui était la sienne auprès de son Père. Et le diable, ce menteur, ce diviseur, insinue que le Père l'a en quelque sorte déshérité en lui remettant à lui, Lucifer, la possession des royaumes de la terre, mais que lui, Lucifer, Lulu pour les intimes, pourrait bien la lui rendre, moyennant une toute petite chose sans conséquence, une toute petite formalité, renier ce père indigne qu'il a déshérité et lui faire allégeance à lui. Et en fait, il est en train de lui en mettre plein les yeux. Et c'est pour ça que ça fait écho à notre deuxième point, la tentation de la convoitise des yeux. Et troisième tentation, si tu es le Fils de Dieu, sous-entendu comme tu le prétends, ou comme on le dit, jette-toi ici en bas, car il est écrit, nanana, il fait référence au psaume 91, et le diable attaque là le terrain de l'orgueil que Jésus pourrait avoir en rapport avec son statut de fils de Dieu. Il tente de susciter en lui le désir de faire quelque chose de complètement stupide, de se jeter volontairement du haut du temple jusqu'en bas, dans le vide, au motif que sa filiation divine lui donne le droit de revendiquer la protection du Père. Repoussé à l'aide des Écritures lors des deux premières tentations, il n'hésite pas cette fois à utiliser les Écritures pour les tordre à son profit en les sortant de leur champ d'application. Et en l'occurrence, la sécurité de celui qui se tient près de Dieu, qui est l'objet du thème du psaume 91. Or, précisément, le diable suggère à Jésus de quitter la présence de Dieu, de lui désobéir par une action téméraire sans aucun rapport avec sa mission, et de revendiquer malgré tout la protection du Père. On est donc ici sur le terrain de la vanité auquel l'Ecclésiaste a consacré toute une réflexion. Tentation de l'orgueil qui s'appuie sur des choses vaines, ses richesses, son statut, ses prérogatives. Et donc nous voilà avec nos trois textes, celui de Jean qui nomme les choses, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, celui de ces trois choses de la Genèse où l'on voit ces trois choses réunies pour conduire l'homme au péché. Et quand le diable arrive à rassembler ainsi ces trois choses dans un même sujet, alors là, il dispose bien évidemment d'une arme redoutable. Et c'est pourquoi, selon notre troisième texte, il les utilise conjointement et successivement avec Jésus, comme il a fait avec Adam et Ève, mettant en œuvre sa stratégie, cette fois-ci avec beaucoup plus de subtilité, eut égard à la nature divine de Jésus, de celui qu'il s'est donné pour objectif de faire chuter. Mais nous le savons, et c'est l'objet de notre grâce, si Ève et Adam ont chuté, Jésus ne chutera pas. Non pas qu'il lui ait été impossible de chuter, auquel cas il n'aurait pas été pleinement homme, mais parce qu'il a résisté. Dans l'Épître aux Hébreux, nous disons ceci: nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toute chose, sans commettre de péché. Il a été tenté tout comme nous, mais il a résisté en tout, pas du tout comme nous. Et Paul exprime aux Corinthiens cette différence entre Adam et Jésus. Comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, et tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je vous dis, frère, c'est que la sagesse et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Pour autant, l'épisode dans le désert a-t-il dissuadé le diable d'essayer de le tenter? Nullement. Luc nous précise à la fin du passage sur la tentation de Jésus que le diable s'éloigna de Jésus jusqu'à un moment favorable. Et nous ne sommes pas plus grands que notre maître. Quand nous résistons au diable, ne nous attendons pas pour autant à l'éloigner définitivement. S'il doit prendre la porte, il tentera de revenir par la fenêtre. Mais il n'en demeure pas moins que devoir s'éloigner est pour lui un revers et pour nous un répit que nous pouvons utiliser à bon escient. Alors, comme promis, revenons maintenant un peu plus en détail sur nos trois points. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Les deux premiers emploie littéralement le mot « convoitise ». Petit bémol, tout au moins dans ma traduction, dans la traduction que j'ai affichée, qui est la traduction seconde. D'autres traductions apportent des nuances, et on les verra tout à l'heure, elles sont intéressantes et elles viennent vraiment éclairer le texte. Voilà, mais donc dans ce que nous avons lu, les deux premiers sujets emploient le mot convoitise, convoitise de la chair, convoitise des yeux, et ce n'est pas parce que le mot est différent, en fait, dans le troisième sujet, que l'idée de convoitise est totalement absente. J'ai fait quelques recherches, et toujours dans ma traduction, on ne trouve pas ce mot de convoitise avant de le rencontrer dans l'Exode, plus exactement dans les 10 commandements. Il apparaît dans le livre de Job, en fait, donc a priori, chronologiquement, a priori avant l'écrit de Moïse, mais il n'est pas du tout dans ce contexte-là, il ne se rapporte pas au péché, il parle de gens qui convoitent la mort parce qu'ils en ont ras-le-bol de la vie, quoi. Il semble que dans la Bible, ce soit dans la bouche de Dieu qu'on entende pour la première fois ce mot pour désapprouver cette attitude intérieure qu'est la convoitise. Et donc, nous le lisons dans l'Exode. Est-ce qu'on arrive à lire là ? Très bien. Chapitre 20, verset 17. « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune des choses qui appartiennent à ton prochain. » C'est le dernier commandement. C'est le dernier commandement, le dixième. Et de là à déduire que c'est le moins important, il y a un pas que nous sommes facilement enclins à franchir. Mais Jésus remet les pendules à l'heure. Hein. Vous connaissez bien tous le passage où il dit « Vous avez appris qu'il a été aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère, septième commandement. Mais moi je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle un adultère avec elle dans son cœur. » Et forcément la logique est la même pour le vol, qui est le huitième commandement. Et en plaçant ce commandement qui touche à nos pensées et à nos désirs secrets, tout à la fin des 10 commandements, Dieu semble nous dire « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, et même, tu n'y penseras même pas. » Peut-être même que le neuvième commandement, qui parle du faux témoignage, est englobé dans l'idée, bien que ce ne soit pas dit expressément. Mais bon, pourquoi produire un faux témoignage si ce n'est pas sans l'arrière-pensée de quelques profits? Pourquoi cette introspection dans nos pensées? On fait du mal à quelqu'un tant que ça reste dans nos pensées? Ben, demandez à Adam et Ève. Eux savent comment c'était avant. Avant qu'ils se mettent à gamberger sur les motivations réelles de Dieu à leur égard, sur ce qu'ils avaient à gagner en bravant l'interdit, sur l'expérience de la connaissance subliminale à laquelle ils aspiraient à arriver. Demandez-leur avant comment c'était. À quel moment ont-ils perdu leur innocence ? Au moment où leurs dents ont pénétré dans le fruit ? Au moment où ils ont goûté sa saveur ? Au moment où ils ont avalé la première bouchée ? Après la dernière miette ? Après la digestion ? Rassurez-vous, je m'arrête là. Ou au moment où ils ont écouté et donné accès aux suggestions du diable dans leurs pensées et leurs désirs profonds ? Plus ou moins directement, c'est Jésus qui répond à cette question lorsqu'on vient l'enquiquiner pour une histoire de manger sans s'être lavé les mains. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ? Lui, il n'hésite pas à aller plus loin. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les immoralités, hein, c'est le sens, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est fabuleux. Nous avons ici tous les commandements sur l'ordre moral et civil, le sixième commandement sur le meurtre, le septième commandement sur l'adultère, le huitième sur le vol, le neuvième sur le faux témoignage, et le dixième sur la convoitise, qui est placée ici en tête hein, lorsque Jésus en parle, parce que c'est la convoitise qui est à l'origine de tous les problèmes. L'apôtre Jacques démontre le mécanisme par lequel la tentation conduit au péché avéré. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsque la conçue, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Et donc tout d'abord, Jacques nous dit et prend cette précaution de nous dire que Dieu ne tente personne. Il n'est pas dans la perspective de Dieu de nous voir nous vautrer dans le péché. C'est toute la différence entre la notion d'épreuve et tentation. Et dans les textes, dans la plupart des textes, c'est le même mot qui est rendu, qui est à l'origine du mot épreuve ou tentation, mais la perspective est vraiment différente. Pour Dieu, telle difficulté que nous rencontrons, telle tentation sera une épreuve qu'il désire de tout son être nous voir surmonter. Et il ne nous prive d'aucun moyen pour y parvenir. Pour notre adversaire, vous l'avez compris, c'est le contraire. Il souhaite ardemment un faux pas de notre part et fait tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre son but, en tout cas dans les limites que Dieu lui impose. Une même situation, une même difficulté, mais deux perspectives bien différentes. Et ensuite, Jacques parle de se laisser attiré et amorcé par notre propre convoitise. Quand j'étais enfant, j'ai eu la joie d'avoir un oncle qui m'a fait découvrir la pêche à la ligne dans les rivières du Morvan. C'était vraiment des moments bénis, ça compte parmi les meilleurs moments de mon enfance. Et puis en plus, ces rivières sont très poissonneuses et on avait assez pour faire le soir une petite friture pour ma tante, mes deux cousines, ma grand-mère. C'était vraiment des moments fabuleux qu'on passait là toute la journée. Mais bref, bon, une fois il est arrivé que ça ne morde pas du tout, rien. Trois petits poissons qui se courent après dans le panier, vraiment rien. Et mon oncle m'a dit « Attends, tu vas voir ». Et là, il a sorti de son sac, de son panier, un sac en plastique qui contenait une bouillie jaunâtre. Et il l'a prise à pleine poignée et il l'a jetée dans l'eau, là où trempaient nos lignes. « C'est quoi, tonton ?»« Des amorces. » Et peu après, nos bouchons ont commencé à s'agiter et puis, pour finir, ça a vraiment mordu et c'était reparti. Des amorces. Jacques nous parle d'attirance et d'amorçage et le principe est là. Il faut bien considérer que ce jour-là, nous n'avons pêché que les poissons qui se sont laissés attirer. L'instant d'avant, il n'y en avait aucun. Alors, certes, nous n'avons pas pêché tous les poissons qui se sont laissés attirer, une prochaine fois peut-être. Mais ceux qui sont restés bien sagement là où ils étaient en sécurité ont retrouvé leur famille le soir. Tandis que les autres ont troqué leur milieu naturel pour une poêle à frire d'huile bouillante. Jacques nous dit que la convoitise lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et que le péché, étant consommé, conduit à la mort. Cette notion de péché consommé, c'est la phase ultime du processus. Il s'agit du péché incontestable, avéré, visible. Et là, nous ne pouvons plus nous mentir à nous-mêmes. Nous en goûtons toute l'amertume. Il nous faut passer par la confession et la repentance, et dans certains cas, la réparation. Mais voilà, personne ne m'oblige à aller jeter un petit coup d'œil quand je vois l'os troublé, sous l'effet de cette bouillie jaunâtre. Et même, allez, si je me suis laissé attirer, si je me suis approché un peu trop près, personne ne m'oblige à me laisser étourdir par le goût un peu suave de cette bouillie, jusqu'à perdre tout discernement, toute notion de danger, et jusqu'à engloutir ce verre qui dissimule finalement très mal l'hameçon qui me sera fatal. Si le péché était effectivement consommé, comme c'est dit là, hein, il est accompli. Au moment où il est commis, il prenait forme déjà dans la convoitise. Et pour y prendre l'image de la conception dont parle Jacques, suggérée par Jacques, l'enfant devient visible au moment de sa naissance, mais il existait déjà et se développait dans le ventre de sa mère depuis plusieurs mois. La plante, au moment où elle sort de terre, a déjà germé et développé ses racines dans le sol. Je change d'image. En termes d'explosifs, l'amorce n'est pas l'explosif principal. C'est une espèce de pétard qu'on met au milieu du pain d'explosif pour déclencher son explosion. Mais dans sa nature intrinsèque, c'est déjà un explosif. La convoitise, c'est ce pétard. Et je disais que tout à l'heure que le dixième commandement s'inscrivait à la suite des quatre précédents comme pour nous dire « tu n'y penseras même pas ». Arrivé à ce stade, je dirais plutôt, pour éviter d'en arriver là, à enfreindre les autres commandements, « tu n'y penseras même pas ». Essayons de voir maintenant ce qui est de la différenciation entre convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, et sans doute ça mériterait un message à lui tout seul. Pour faire court, j'ai fait un petit comparatif entre la version seconde que je vous ai lue et la version du semeur. Pour la convoitise de la chair, la version du semeur traduit les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. On est là dans la sphère de nos besoins, instincts, pulsions corporelles. Ce sont ceux qui mènent vers les excès de table, d'alcool, l'adultère, le libertinage, parfois jusqu'à l'addiction, mais aussi la colère, l'emportement, le viol, l'inceste, le meurtre. Dans la tentation de Jésus, c'est aussi clairement la faim qui est un besoin corporel légitime, mais qui, par définition, est une tentation lorsqu'on jeûne. La convoitise des yeux, le semeur, dit « la soif de posséder, ce qui attire les regards ». Comme je disais, le diable a tenté d'en mettre plein les yeux à Jésus, en termes de puissance et de possession terrestre, et de gloire terrestre. Une autre façon de dire pourrait être faire miroiter. Et d'ailleurs, il n'est pas étonnant que le diable essaie de tenter Jésus en l'élevant, comme nous avons dit tout à l'heure, ou en le transportant sur une montagne très élevée. Il tente ainsi d'amorcer sa convoitise en l'attirant sur une position où il sera, selon lui, plus vulnérable, plus accessible à la tentation. Les instincts auxquels la convoitise des yeux fait appel sont l'envie de paraître, la jalousie, l'insatisfaction, une ambition insatiable, l'arrivisme, la folie des grandeurs. Et pour le dernier, l'orgueil de la vie, La Bible du Sommeur nous propose l'orgueil qu'inspire les biens matériels. Et dans un premier temps, j'avais mis le désir de posséder et la convoitise de l'argent. Je l'avais un peu rangé dans la convoitise des yeux. Et c'est vrai que elles sont bien souvent au rendez-vous. Les richesses sont bien souvent au rendez-vous de ceux qui recherchent la gloire, l'honneur, le pouvoir. Mais peut-être que c'est pas là l'objet de leur préoccupation principale. C'est plutôt un bénéfice collatéral. Il est des gens immensément riches, foncièrement attachés à accroître leur richesse et qui savent très bien rester cachés en dehors de tous les circuits de visibilité sous un aspect de grande modestie. Et pourquoi? Pour ne pas attirer les regards, précisément. Peut-être sur le fisc, même. Hein. Je pense que s'ils n'étaient pas tenus au secret professionnel, les notaires pourraient nous en raconter des bonnes. Hein. Moi, je pense en particulier à l'homme riche de la parabole de Jésus qui veut abattre ses greniers pour en construire des plus grands afin d'y mettre sa récolte. Hein. Vous vous souvenez de ça? Et qui se dit, je dirai à mon âme, je m'imagine bien comme ça me parler, mon âme. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. C'est manifestement pas quelqu'un qui va mener grand train, c'est pas un people qui va faire la couverture de Paris Match. Pas sûr même qu'il se repose, mange et boive et se réjouisse avec ses amis, savoir même s'il le fera avec sa famille. Il le fera seul. Inconsciemment, lui aussi, il est dans l'envie, mais dans l'envie de posséder, d'amasser, au-delà de toute raison. Et si vous lui demandez pourquoi il fait ça, il vous dira que c'est pour avoir de quoi voir venir. C'est une question de sécurité. Et si on va vers cette idée de sécurité, on arrive très vite au statut, non plus cette fois le statut social pour l'apparence, hein, pour le paraître, mais le statut supposé protecteur, de bonnes études, un bon emploi en CDI dans une entreprise en bonne santé, ou mieux dans la fonction publique, une bonne mutuelle, une voiture en bon état, une maison solide dans un quartier calme, etc. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre l'expression « ouvrir l'intelligence » dans la Genèse, hein, ce à quoi aspire Ève, quand elle qu'elle se trouve en face du fruit, précieux pour ouvrir l'intelligence de conduire sa vie, mais malheureusement en dehors de toute référence au plan de Dieu. Et si cette nuit même ton âme t'était redemandée, à qui cela servirait-il? Le diable dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, alors tu crains rien. Tu as un statut qui te met en totale sécurité. Tu as des prérogatives à faire valoir aussi. Le Père sera bien obligé de venir te secourir, sinon il renierait ses promesses. L'esprit de cet orgueil de la vie se niche jusque dans le domaine spirituel. Si tu es chrétien, tu es en sécurité. Dieu te gardera de tout mal, même si tu lui désobéis, nous suggère le diable. Et même sans désobéir, on le sait, le croyant peut tomber malade, perdre son emploi, devoir faire le deuil d'un proche, être ruiné, déchu de son rang social, rejeté par ses amis, délaissé par sa famille, incompris par ses frères en Christ, et j'en passe. Nous ne disposons d'aucun statut qui nous mette à l'abri d'aucune de ces choses. Cette semaine, nous avons reçu un mail d'une équipe de Brésiliens qui s'apprêtait à venir chanter au mois de juillet en France des concerts gospel pour faire de l'évangélisation. Et il s'avère qu'ils sont touchés brutalement, 50% d'entre eux, dû à la crise économique qui sévit au Brésil, ils sont touchés brutalement, 50% d'entre eux ont perdu leur travail. Et les autres ont peur de le perdre. Le statut de fils de Dieu dont disposait Jésus, ne l'a pas épargné de la faim, de la soif, de la fatigue, de la souffrance humaine, du rejet des hommes, de la mort sur la croix, et même pas de la colère de son Père. On l'a chanté ce matin dans un des chants, les mains qui tenaient la terre. J'ai noté, c'est mal écrit parce que j'ai noté à la volée. Les mains qui tenaient la terre se livrent au coup de la colère, au clou de la colère. Et Jésus, au contraire, fait valoir son statut de fils de Dieu, non pour lui-même, mais pour nous. Car c'est à sa pureté, à sa perfection, à son innocence à l'égard du péché que nous lui devons d'avoir été condamné à notre place. Et c'est précisément en renonçant aux prérogatives de son statut qu'il nous a acquis le statut d'enfant de Dieu. Mais ne l'oublions pas, nous sommes des pécheurs graciés, que ce soit pour nous accuser, que ce soit comme pour Jésus pour nous tenter. Le diable aime bien venir susurrer à nos oreilles si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu. Répondons-lui fermement, si je suis chrétien, c'est que je suis gracié. Même si nous avons chuté, nous sommes graciés. Nous sommes graciés même pour ce péché dont nous avons du mal à nous débarrasser. Opposons lui, au diable, l'assurance que nous donne l'Écriture, « Ma grâce te suffit, la grâce de Dieu me suffit. » Et je voudrais vous quitter sur une réflexion, parce que nous avons beaucoup parlé de la convoitise, du péché. Et je vous propose d'étayer, de nous détourner de la convoitise qui nous attire vers le bas, vers la chute, de nous détourner de cette convoitise vers des choses qui nous élèvent, qui nous édifient et nous rapprochent de Dieu. Pourrions-nous convoiter le bien comme on convoite le mal? J'hésite, hein. La convoitise véhicule vraiment quand même ce mot, et comme on l'a dit, le péché est déjà là dans la convoitise. C'est pas tout à fait comme la méditation dont parle la Bible. On peut méditer sur les choses de Dieu, et puis la Bible aussi parle de ceux qui méditent à faire le mal, c'est plus neutre. Mais la Bible, comme on l'a dit, la convoitise, comme on l'a dit, c'est ce pétard d'amorçage. Elle est déjà trop compromise avec le péché pour pouvoir s'appliquer aux bonnes choses par un simple renversement de perspective. Et donc, je ne prendrai pas ce mot-là, mais je vous en propose un autre, le mot « aspiration ». C'est un mot qui est peu employé dans la Bible, mais presque toujours tourné vers ce qui est bien, vers ce qui nous attire vers le haut, vers ce qui nous attire vers Dieu. Et à quatre reprises, l'apôtre Paul l'emploie dans la lettre aux Corinthiens, dans la première lettre aux Corinthiens, pour les exhorter à aspirer aux dons spirituels. Au cours de sa comparution devant Agrippa, Paul déclare que les 12 tribus d'Israël aspirent à l'accomplissement de la promesse faite à leur père. La convoitise avait fait de nous des aspirateurs à poussière, des aspirateurs à saleté. Renversons cette perspective et devenons des aspirateurs de toutes les facettes du fruit de l'esprit. Les aspirer, pour quoi faire ? Pour les en faire un plein sac et puis les jeter en l'air pour que ça retombe sur tout le monde et qu'on puisse les distribuer autour de nous. On n'est généralement pas très fiers de nos poussières de convoitise et on cherche avant tout à s'en débarrasser. Mais devenons au contraire des aspirateurs d'amour, des aspirateurs de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur et de maîtrise de soi. Je fais référence, bien entendu, vous l'avez compris, aux multiples facettes du fruit de l'esprit qu'on trouve dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Mais hier, j'allais en rester là, hier, en préparant ce message, en achevant la préparation de ce message, lorsque j'ai failli tomber de ma chaise, quand mes yeux me se sont portés sur le verset 26, oh là. Il était déjà là ? Non ? Non. Verset 26, qui nous dit « Ne cherchons pas une vaine gloire, convoitise de la chair, convoitise des yeux. » Oh, qui c'est qui fait ça là ? Ah oui, si, c'est bon, ok. Ne cherchons pas une vaine gloire, donc convoitise des yeux, en nous provoquant les uns les autres. Hein, la provocation, lorsqu'on est confronté les uns les autres, c'est la chair qui s'exprime, convoitise de la chair, et en nous portant envie les uns aux autres, orgueil de la vie. J'aimerais que nous chantions le chant qui dit « Sonde-moi, ô Dieu ».